Donc je vais commencer par une phrase que j'ai trouvée sous la plume de nombreux spécialistes de littérature. Cette phrase, elle dit ceci: l'aventure est l'essence de la fiction. Donc ça a l'air de sonner comme une évidence. Donc je l'ai trouvée chez Jean-Yves Tadier dans son fameux livre, son livre classique sur le roman d'aventure. On la trouve aussi chez Michel Lebris, Pierre Macheret, Charles Grivel, et je l'ai encore vue chez beaucoup d'autres spécialistes de littérature. Donc cette phrase, l'aventure est l'essence de la fiction, on peut peut-être la prolonger aussi en affirmant que l'événement est l'essence de l'aventure, qu'il en constitue le cœur. Parce qu'a priori, il faut de l'inattendu pour faire du récit, et en particulier du récit d'aventure. Et c'est bien dans cette logique que le grand roman d'aventure s'est développé à la charnière des 19e et 20e siècles. Le héros du roman d'aventure se confond avec l'action, avec le mouvement perpétuel des événements qui doivent s'enchaîner de façon soutenue et continuée. Stevenson, qui est donc le grand maître du roman d'aventure, parle ainsi, donc c'est des formules que je cite de Stevenson, parle de cette nécessité de l'événement frappant qui fait que nous plongeons dans le récit. Et donc pour les romanciers d'aventure, Stevenson, London, Conrad, en France, Macorlan, etc., pour les romanciers d'aventure, donc, il s'agit de revenir à la simplicité d'une fiction où l'événement exacerbé occupe la première position. Il s'agit de retrouver une certaine immédiateté narrative, de revenir à ce que certains appellent le plaisir simple du récit, en multipliant les obstacles sur le chemin des héros. Alors, pour expliciter un peu ce modèle qui, au dire des théoriciens que j'ai cités, doit être celui de toute écriture fictionnelle, j'en viens donc à la catégorisation en trois modes de l'intégration de l'événement dans le récit que je propose. Je précise une petite chose à ce sujet d'ailleurs. Dans le texte de présentation que vous avez fait de cette journée d'étude, vous avez dit que c'était moi qui proposais ces trois modes d'intégration. C'est vrai que j'en parle et que je suis à fond là-dedans. Mais je voudrais rendre quand même à César ce qui est à César. Ça vient en fait, cette terminologie, du chercheur canadien René Audet, dans un article qui date déjà de 2006. Son article s'appelle « La narrativité est affaire d'événements ». Donc j'ai simplement infléchi et mis à ma sauce, si on veut, ces catégories. Et donc je vous présente cette classification telle qu'Audet la présente. Donc René Audet propose d'abord de distinguer narrativité et récit. Le récit étant, je cite, une concrétisation, une incarnation textuelle langagière complexe du phénomène de la narrativité. Phénomène de narrativité qui peut donc se manifester dans d'autres modes, on va le voir. Ensuite, Audet distingue trois types de manifestations de l'événement dans une œuvre, selon le degré de proximité de l'événement par rapport au référent. Il y a d'abord donc l'événement intramondain. C'est un terme qu'il emprunte à Claude Romano, le phénoménologue Claude Romano, qui a écrit deux ouvrages sur l'événement, plutôt philosophique. Donc l'événement intramondain, c'est celui qui se passe dans le monde construit et créé par l'œuvre. C'est donc celui qui arrive au héros et qui infléchit sans cesse le cours de sa vie. Deuxième type d'événement, qu'Audet appelle discursif. L'événement discursif se manifeste par exemple par le ou les discours du narrateur, par des réflexions métanarratives plus ou moins prises en charge par l'auteur lui-même. Et enfin, troisième type d'événement, Audet dit qu'il se rattache à la performance même de l'œuvre. C'est l'événement qu'il appelle opéral, où l'existence de l'œuvre, je cite Audet, l'existence de l'œuvre conduit le lecteur et le spectateur à percevoir celle-ci dans le geste qu'il a créé. Donc si l'on peut reconnaître ici la performance chère à certaines expériences artistiques modernes, Audet évoque aussi le recueil poétique, dont le geste de rassemblement sérialise l'événement que constitue l'avènement langagier du poème. Donc je vais revenir sur ces trois modes proposés par Audet en infléchissant donc ces définitions qu'il donne. Le roman d'aventure classique dont j'ai parlé, celui de Stevenson, de London, etc., s'inscrit très largement, évidemment, dans le premier modèle, celui de l'événement intramondain. C'est même définitoire pour le héros du roman d'aventure, qui est ce personnage confronté sans cesse à de l'inattendu et à des événements. surmonter ces événements et ces obstacles, pour affronter ceux qui ne vont pas manquer d'arriver par la suite, c'est justement cela qui lui confère son statut de héros. L'événement est donc ici au cœur de l'action narrative. Il se passe avant tout dans la vie des personnages qui constituent alors ce qu'on appelle un récit. Alors, pour mieux caractériser ce modèle, je vous cite un exemple éclairant donné par le romancier Edward Forster, donc c'est début du XXe siècle. Il cite une première phrase, il dit « Le roi meurt, puis la reine meurt ». Il dit ça, ce n'est pas un récit, c'est une simple chronique. Puis deuxième phrase, « Le roi meurt, puis la reine meurt de chagrin ». Et cette fois, ça devient un récit, car le fait de rajouter « de chagrin » suppose une intrigue, « plot » en anglais. Donc il suffirait d'ajouter à la simple chronologie des faits une causalité pour qu'une chronique devienne un récit. Ce modèle, c'est donc aussi celui plus largement de toute la grande tradition du roman du XIXe siècle, du réalisme balzacien à Tolstoï, Dostoïevski, Hugo, George Eliot, etc. Il y a quand même une différence avec le roman d'aventure, par exemple avec le roman balzacien, qui au lieu de multiplier les péripéties et les événements, comme ça se faisait déjà d'ailleurs chez les grands feuilletonistes, chez Dumas, chez Eugène Sue ou Dickens, le roman balzacien, lui, va plutôt se concentrer sur un ou deux événements, qui alors structure la fiction. Et Balzac va placer au centre de ses récits un ou quelques événements fonctionnant comme autant de catastrophes qui bouleversent les positions sociales des uns et des autres. Entre grandeur et déclin d'un César Birotteau, entre splendeur et misère des courtisanes, entre les illusions et leurs pertes. Donc le roman raconte les prémices qui préparent l'événement catastrophe, puis cet événement, puis les conséquences de cet événement. Plusieurs auteurs ont relevé cette structure chez Balzac. Pierre Macheret, par exemple, il le dit ainsi, « La même structure toujours donne forme au roman balzacien. De très longs éléments de description traités par eux-mêmes sont brutalement coupés par un événement inattendu. » Ou bien Maurice Bardèche qui dit « Chez Balzac, la masse du roman doit peser sur une scène capitale en vertu d'une sorte de loi presque mécanique de la narration. » Et Proust aussi le dit dans Contre Sainte-Beuve. Il dit « Il faut bien montrer pour Balzac les lentes préparations, le sujet qu'on ligote peu à peu, puis l'étranglement foudroyant de la fin. » Ce schéma a donc été celui qui a dominé la littérature romanesque du XIXe siècle, y compris, j'ai pas le temps de le montrer ici, pour les romanciers et nouvellistes naturalistes, quoi qu'ils en aient. Parce qu'ils n'étaient pas vraiment, ils n'avaient pas vraiment envie de faire ça, mais ils n'ont pas pu s'en empêcher. J'ai écrit pas mal de choses là-dessus, mais je ne vais pas insister là-dessus. Puis ce modèle a donc été fortement remis en cause par nombre de grands écrivains du XXe siècle, depuis Joyce, Virginia Woolf, Proust, Musil, jusqu'au nouveau roman. Je vous résume cette deuxième phase en de très grandes lignes. Joyce d'abord, avec le monologue intérieur d'Ulysse. L'événement est ici démultiplié en d'innombrables micro-événements qui sont ceux qui se produisent dans le flux de pensée de Bloom, Léopold Bloom. Ce qui veut dire que l'intramondain dont je parlais, c'est cette fois l'intérieur du cerveau et du corps de Bloom. Proust, lui, construit des événements à venir. Par exemple, la rencontre du côté Guermantes, ou bien la rencontre des jeunes filles en fleurs. Puis il montre que ces événements rêvés, en fait, n'en sont pas. Ils se dissolvent dans la faiblesse, voire la médiocrité, des personnes auparavant fantasmées. De la même façon que se brouillent les classes sociales et les différences de sexe. Virginia Woolf, elle, pousse à son paroxysme le monologue intérieur, le flux de conscience, le stream of consciousness, dans Madame Dalloway, dans La promenade au phare, ou encore plus dans Les vagues. Donc ce flux de conscience glisse insensiblement d'un personnage à l'autre. Il suffit d'un mot pour qu'on passe d'un flux de pensée de l'un au flux de pensée de l'autre. Il y a là déjà ce que j'ai appelé, donc, à la suite d'Audet, de l'événement discursif. Ce n'est plus dans ce qui est raconté que se trouve ce type de glissement, c'est quelque chose qui se produit au niveau du texte lui-même. Je vais encore évoquer Musil, qui avec L'homme sans qualité supprime la frontière entre le roman et l'essai, et se dresse contre la vacuité du récit traditionnel. Je vous cite un passage de L'homme sans qualité. La loi de la narration classique, de cet ordre simple qui permet de dire « Quand cela se fut passé, ceci se produisit. » C'est la succession pure et simple, la reproduction de la diversité oppressante de la vie sous une forme unidimensionnelle qui nous rassure. L'alignement de tout ce qui s'est passé dans l'espace et le temps le long d'un fil, ce fameux fil du récit, justement, avec lequel finit par se confondre le fil de la vie. Et Ulrich, donc le héros de L'homme sans qualité, lorsqu'il médite sur ce fameux fil du récit, qu'il appelle « éternel tour de passe-passe narratif », c'est pour constater donc qu'il a perdu le sens de cette narration primitive. Il appelle ça même des narrations pour des récits pour nourrices. Édouard Glissant, beaucoup plus tard, dit la même chose. Voici ce que dit Édouard Glissant, c'est dans Tout Monde. Prenons garde que notre récit s'embarrasse peut-être de ce fil qui a pour nous été tissé. Ne mordons pas à cette ligne. Les récits du monde courent en ronde, ils ne suivent pas la ligne. Ils dévalent en tous sens. Tournez avec eux. Avec des écrivains de cette sorte, donc, le fil du récit est perdu. Ce fameux fil dont Flaubert, déjà, disait combien il était difficile pour lui de le suivre. Il a toujours essayé de le suivre, mais il a toujours eu du mal. Par exemple, de la tentation de Saint-Antoine, il dit dans une lettre « Jamais je ne retrouverai des éperdumens de cils comme je m'en suis donné là pendant 18 grands mois. Comme je taillais avec cœur les perles de mon collier. Je n'y oublie qu'une chose, c'est le fil. » Son problème constant, donc, à Flaubert, c'est de parvenir à ordonner les perles qui constituent les détails, les événements qu'il décrit sur le fil ordonné d'un récit. Cette métaphore est récurrente dans la correspondance de Flaubert, la métaphore du fil pour ordonner les perles. Je vous donne quelques exemples. « Je tâche d'être boutonné et de suivre une ligne droite géométrique. » Ou encore « Le détail est atroce, surtout lorsqu'on aime le détail comme moi. Les perles composent le collier, mais c'est le fil qui fait le collier. » Jacques Rancière, le philosophe contemporain, dans son livre consacré justement à ce fil perdu, le titre du livre s'appelle « Le fil perdu », écrit que ce qu'il veut penser, ce sont quelques-uns des paradoxes qui fondent la fiction moderne sur les destructions de ce qui semblait et de ce qui semble encore très souvent fonder toute fiction. La colonne vertébrale qui est en fait un corps tenant par lui-même. L'ordonnance interne qui subordonne les détails à la perfection de l'ensemble. Les enchaînements de causes et d'effets qui assurent l'intelligibilité du récit à travers son développement temporel. Cette remise en cause radicale, bien que progressive, a donc conduit beaucoup d'écrivains du XXe siècle, puis du XXIe siècle, à d'autres manières d'envisager ce qu'on a du mal maintenant à encore appeler un récit. Et même chez ceux qui continuent à vouloir que l'événement et l'aventure restent au cœur de leur fiction, qui veulent que l'on continue à raconter des histoires, je le dis en passant, c'est d'ailleurs quelque chose qui conduit au storytelling généralisé, qu'on trouve de plus en plus et qui même gangrène la politique et plus généralement la société. Donc même si les écrivains qui continuent à vouloir que l'événement et l'aventure restent au cœur de la fiction, il arrive de plus en plus souvent qu'on trouve quelques interventions de l'auteur, plus ou moins ironiques, pour montrer qu'on n'est pas dupe de ce qu'on fait, de ce qu'on invente. Qu'on n'est pas dupe donc du contrat de lecture qu'on propose. Je vous donne deux exemples entre mille, chez deux romanciers dits populaires, deux romanciers d'aventure dont les fictions sont chargées d'événements. L'anglais John Fowles, d'abord. C'est dans Sarah et le lieutenant français. Ne viens-je pas là de façon indigne de rompre le cercle de l'illusion ? Non pas. Mes personnages existent encore, et leur réalité n'est ni plus ni moins réelle que celle de la convention que je viens ainsi de rompre. L'américain Tom Boyle, ensuite, dans Water Music. À ce stade de l'histoire des mœurs, il était considéré de rigueur pour une héroïne de roman, de perdre connaissance face à des événements si soudains et dévastateurs. Marc Chenetier, qui est un spécialiste de littérature américaine, qui commence ses postures, écrit « La conscience de soi et de l'activité littéraire use volontiers maintenant de gestes narratifs ironiques, recours à des clins d'œil destinés à populariser la distance qu'il est devenu presque naturelle de mettre entre soi et des modes d'écriture considérés comme périmés. » C'est-à-dire qu'on continue à écrire comme avant, mais on essaie de montrer qu'on n'est pas dupe de ce qu'on écrit. En dehors de ces postures, donc, deux voies principales s'offrent aux écrivains qui veulent continuer à écrire des « romans », entre guillemets. Soit on déplace carrément l'aventure ailleurs, dans le tout discursif. Là, il n'y a presque plus de héros ni d'aventure au sens traditionnel, mais une multitude d'observations sur la narration elle-même. Soit on entre dans une sorte de grand œuvre, dans l'opéral. C'est alors soi-même qu'on met en scène et qu'on invente par l'œuvre elle-même. Je vous développe donc maintenant ces deux points. Donc, j'ai longuement parlé de l'événement intramondain. Je parle maintenant de l'événement discursif. C'est celui écrit au dé où la glose du narrateur-écrivain constitue l'événement fondateur du discours narratif. Et au dé prend pour exemple Le vaillant petit tailleur, qui est un roman d'Éric Chevillard. Alors, dans ce roman, on apprend presque rien sur le héros du conte des frères Grimm, mais beaucoup de choses sur le narrateur-écrivain. L'événement discursif se produit donc lorsqu'il y a retournement du texte sur lui-même, lorsqu'il devient énonciatif. Il est de fait que c'est une constante dans les textes de Chevillard que de détricoter les codes narratifs, de multiplier les digressions et les réflexions métanarratives. Dans un autre de ses romans, qui s'appelle « Les absences du capitaine Cook », il le revendique hautement. Donc je cite une phrase, plusieurs phrases des absences du capitaine Cook. « Nos livres favoris sont ceux où les anges pour Chevillard, ce sont les digressions. Nos livres favoris sont ceux où les anges abondent. Ce sont ces livres dans lesquels, par leur faute, on n'avance pas, desquels on ne sort pas, dont on ne voit pas le bout. Les anges, c'est, je cite encore, tout ce qui dans un livre n'est pas nécessaire à l'action, tout ce qui, d'une certaine façon, l'entraverait plutôt. Bref, tout ce qui détourne le cours du récit, ou tout au moins le ralentit. » Alors, cette tradition n'est pas forcément nouvelle, on peut penser à Stern, Laurent Stern, bien sûr, ou à Diderot. Comme dans Tristram Shandy de Stern ou Jacques le Fataliste, l'événement des romans de Chevillard ne se joue plus autour d'une histoire, celle du héros des frères Grimm, le petit tailleur, celle du voyage du capitaine Cook, mais autour de ces digressions et réflexions qui émaillent ce qu'il est difficile d'appeler encore un récit. Dans de telles œuvres, où c'est l'événement discursif qui prime, c'est bien l'expérience même de narration qui est ici mise en avant. Quant au troisième événement, enfin, disons, forme d'événement dans l'écriture, l'événement opéral, Audet nous dit, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il se rattache plutôt à la performance même de l'œuvre. Il dit aussi qu'avec l'événement opéral, on assiste à un retour de l'événementialité productrice de l'œuvre sur le mouvement qui anime celle-ci. Alors tout cela évoque, en tout cas moi ça m'a évoqué ça, les remarques de Bourdieu, de Pierre Bourdieu dans Les règles de l'art, à propos de Marcel Duchamp, dont Bourdieu dit qu'il est créateur d'un art de peindre impliquant non seulement l'art de produire une œuvre, mais l'art de se produire comme peintre. Duchamp, dit encore Bourdieu, produit des objets dont la production comme œuvre d'art suppose la production du producteur comme artiste. C'est un peu le style un peu lourd quelquefois de Bourdieu. Audet, quant à lui, prend l'exemple d'une photographe. Et alors, on peut se demander que pourrait donc être un événement opéral dans le champ littéraire. Alors, pour ma part, et là, j'infléchis assez fortement ce que dit Audet, pour ma part, entendant dans l'adjectif opéral à la fois le mot opéra au sens d'œuvre d'art totale et le verbe opérer dans son sens chirurgical, je propose d'y comprendre ces textes souvent hors normes et polygénériques où l'écrivain est en première ligne, où il se met à nu, voire en danger, où il s'invente dans et par son œuvre, où l'écriture devient proprement performative. Et je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, celui d'un livre qui s'appelle « La parole errante », qui est un grand œuvre d'Armand Gatti. Donc c'est un livre monstre, 1700 pages, sur papier bible. Ce livre dit les parcours de l'auteur, donc je pense que... Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent Armand Gatti. Donc il y a eu une vie incroyable, des maquis corréziens à 17 ans, au camp de concentration nazi dont il s'est évadé, de l'Angleterre où il est parachutiste jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre, aux expériences de journalistes de terrain, dans la Chine de Mao dans les années 50, en Amérique centrale avec les guérillas, etc. Puis ensuite du travail théâtral qu'il a fait en Irlande du Nord ou dans les quartiers nord de Marseille, à ses réalisations cinématographiques. Alors on pourrait penser que c'est un récit autobiographique, mais pas du tout, on en est loin. Il ne s'agit pas de raconter sa vie de façon linéaire, ni de se mettre en scène. En ce sens, ce n'est pas non plus de l'autofiction. On est bien plutôt en présence d'une gigantesque entreprise d'écriture aux formes multiples et éclatées. Donc là-dedans, il y a des poèmes, des parties dialoguées, des récits, des fragments, des aphorismes, des dessins, etc. dont les narrateurs sont les différents matricules qui ont jalonné la vie de l'auteur, ou bien les brouillons de tous les textes qu'on lit et qui réclament d'accéder à l'existence. Le propos n'est donc pas du tout comme, par exemple, dans les mots de Sartre, de se construire à travers une écriture autobiographique une figure, mais de montrer comment une œuvre et un auteur s'inventent au fur et à mesure qu'elle, l'œuvre et il, l'auteur, s'écrit avec ses repentirs, ses métaphores, ses recherches, ses créations de nouveaux langages, ses multiples inventions. Je vous donne un deuxième exemple, celui du haïtien Franck Étienne. Œuvre immense, elle aussi, et monstrueuse. Donc dans cette œuvre-là, qui s'appelle « L'oiseau schizophone », est exposé le combat des formes contre le chaos pour advenir et pour qu'une écriture puisse s'organiser. Les phrases même de Franck Étienne, dans cette deuxième œuvre, donc, d'abord plus ou moins disloquées, se construisent progressivement, s'élaborent, se soutiennent les unes les autres pour finir par faire émerger du sens, par élaborer un discours chargé de dire toute la grandeur et tout le pathétique de la terre d'Haïti, soumise à tous les bouleversements humains et naturels. Avec L'oiseau schizophone, donc ce livre, autre livre monstre qui fait 800 pages, lui, on assiste à travers de multiples jeux typographiques à l'émergence des formes par rencontre et enlacement mutuel, par séparation et distinction réciproque, par ces ramifications d'histoire qui démarrent de tous côtés, qui s'entrecroisent, s'interrompent, se détruisent les unes les autres, se construisent en s'effaçant. Des livres comme ceux que je vous présente là ne donnent pas un état final d'un texte, ils rendent présent, et en ce sens ils présentent, les efforts d'une écriture pour advenir. La gigantesque entreprise d'un écrivain pour faire exister une œuvre multiforme, la lutte incessante des mots pour contre le chaos qui menace toujours, s'organiser, donner du sens et de la beauté. Alors, je pense encore à d'autres écrivains, comme Pierre Guyotat, par exemple, qui dans ses premiers textes en particulier, Tombeau pour 500 000 soldats ou Éden, 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 écrit des choses qui sont d'une violence si dévastatrice que l'auteur lui-même a failli sombrer dans la folie. On peut penser aussi à Antonin Artaud, bien sûr, celui en particulier des Cahiers de Rodez, puis du Retour à Paris, ou bien celui de Suppôts et Supplications, son dernier recueil publié, qui invente une écriture singulière, qui nous fait assister en direct à la tentative de création d'un texte qui serait en mesure de réconcilier son auteur avec lui-même. À ce qu'il appelle la matérialisation corporelle et réelle d'un être intégral de poésie. On pourrait sans doute encore faire de telles lectures des romans, entre guillemets, de Beckett, voire de ceux de Nathalie Sarraute. Mais peut-être que vous allez trouver que je resserre là un peu quelque chose de daté, la trop fameuse formule de Ricardou sur le nouveau roman, sur l'aventure d'une écriture en lieu et place de l'écriture d'une aventure. Alors il y a peut-être un peu de cela, mais il y a aussi beaucoup plus que ça. L'enjeu, je crois, peut être dit existentiel en un sens beaucoup plus fort, où l'engagement de l'écrivain est total, où l'on pourrait presque dire que l'écriture tente de revenir à une forme d'origine du langage, quand le langage s'invente à travers les mots mêmes de l'écrivain. Je voudrais terminer donc ce tour d'horizon avec une dernière précision. Il va de soi que, pour moi, les trois manifestations de l'événementiel dans l'écriture romanesque dont j'ai parlé ne sont que très rarement, voire jamais, exclusives les unes des autres. Il y a de l'événement intramondain, de l'événement discursif, de l'événement opéral dans toutes les œuvres évoquées. Tout est affaire de proportion. Chaque texte contient une dose plus ou moins forte, plus ou moins accentuée, d'événements de chaque catégorie. Ainsi, on peut trouver chez Balzac beaucoup de considérations discursives. Et même si chez Chevillard il y a peu d'événements intramondains, il n'empêche, on en trouve encore quelques-uns, fût-il en position seconde. Et même dans une entreprise aussi radicale que celle de Beckett, dans son méthodique travail d'élimination de toute contingence et de toute histoire, de tout récit, il subsiste ce qu'il appelle, en le déplorant, mais ce qu'il appelle quand même, dans Cap au pire, un de ses derniers textes, un imminimisable minime minimum. Il subsiste des traces donc de l'événement intramondain, des bribes de cet enfer d'histoire, c'est comme ça qu'il appelle ça, dont dans l'innommable, il rêvait que c'en serait enfin fini. Tout est donc affaire de degré et de répartition des trois événements. Et je crois que c'est enrichir la lecture que d'en dégager une telle répartition. Et il faut pour cela accepter d'être saisi par ce qui est autre chose que du récit, de la narrativité donc, selon Audet, mais à tous les niveaux possibles de sa mise en œuvre. car, je vais terminer là-dessus, Audet demande qu'on distingue donc ce qui relève du récit et ce qui relève de la narrativité. Le premier, le récit, suppose un sujet impliqué dans des actions dont l'ordonnancement temporel et configurationnel est rapporté par une instance interne de la fiction. Il faut donc 5 paramètres, action, téléologie, temporalité, voix, sujet. Et ces 5 paramètres permettent alors au récit de se réaliser. Tandis que la narrativité se définit d'une manière très générale par le fait qu'il y a événement. Donc, dans un sens, s'il y a récit, il y a nécessairement événement, mais la réciproque n'est pas toujours vraie. S'il y a événement, il y a narrativité, sans que cela passe nécessairement par un récit. Le récit, donc, qui privilégie l'événement intramondain, n'est qu'un mode possible de narrativité. La narrativité, elle, peut se déployer à ses autres niveaux que sont l'opéral et le discursif. Cela même, donc, que les écrivains dont j'ai parlé mettent en avant. Peut-être alors que bien lire, c'est ne négliger aucune des dimensions de la narrativité. C'est alors la lecture qui devient qu'il faut voir comme une aventure, en tout cas à laquelle il faut redonner cette dimension. Voilà, je vous remercie.